Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Le saviez-vous, le 9 novembre dernier, il y a donc un peu moins de 3 mois, le pape François se rendait à Rome devant la dalle à l'honneur des victimes de la misère, sur laquelle est écrit entre autres « Jamais plus d'exclusion, la discrimination, le mépris des pauvres et des petits ». Un geste fort de la part du pape des pauvres, comme l'appellent certains. À l'origine de cette dalle, symbole d'une volonté d'éradiquer la misère, il y a un mouvement, presque une famille, celle d'ATD Quart-Monde et des groupes nés dans le sillage de son fondateur, le père Joseph Wresinski. Le leitmotiv de ce mouvement, il faut apprendre à entendre la parole des plus pauvres. Elle seule peut changer l'Église et notre monde, rien que cela. La diaconie, la puissance de la parole des pauvres, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Autour du plateau, pour nous parler de tout cela, Marie-Yvonne Caillot, vous êtes ancienne déléguée aux questions familiales pour ATD Quart-Monde et auteure d'un ouvrage intitulé « Contre vents et marées, réflexions sur la famille » paru aux éditions ATD Quart-Monde. Bonjour.
Bonjour.
Voilà, merci d'être présente. Vous êtes donc en région parisienne. Sébastien Combe, vous êtes volontaire Bonne Nouvelle ATD Quart-Monde et responsable de la diaconie pour le diocèse de Toulouse. Bonjour.
Bonjour.
Et Gali, vous êtes membre d'un groupe qui s'appelle Place et Paroles des Pauvres. Bonjour.
Bonjour.
Merci à tous d'être ici ce matin au micro. On va donc parler de... C'est une grande famille alors qui prend différents intitulés, différentes réalités. Il y a donc Joseph Wresinski, les familles spirituelles qui sont nées un peu autour du fondateur d'ATD Quart-Monde. On parlera d'ATD Quart-Monde et puis donc aussi de la diaconie. C'est le même mouvement de mettre à la première page, je disais, dans le teasing de l'émission ce matin, les plus pauvres et d'apprendre à entendre ce qu'ils ont à nous dire. On va commencer avec vous, Marie-Yvonne Caillot. Aviez-vous entendu parler de cette visite du pape François à la dalle, à Rome, donc à l'honneur des victimes de la misère?
Oui, mais voilà, je n'étais pas du tout impliquée dans cette visite, mais oui, j'en ai entendu parler.
Alors, est-ce que vous pouvez rappeler pour commencer que cette dalle donc, est une réplique d'une dalle qui est au Trocadéro à Paris, donc c'est en face de la Tour Eiffel pour ceux qui n'y sont jamais allés, et nous expliquer un petit peu l'histoire de cette dalle, qui a inauguré cette dalle?
Oh là, c'est une histoire qui date de 1987. Où le mouvement ATD Quart-Monde a eu le désir de rassembler tous les défenseurs des droits de l'homme. Et il y a eu une grande fête qui a rassemblé, je crois, on dit 100 000 personnes au Trocadéro à Paris. Et sur cette dalle est écrit « Là où les hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les droits de l'homme sont violés. S'unir pour les faire respecter est un devoir sacré ». Et donc, qui redit vraiment le combat du mouvement ATD Quart-Monde, qui est de se rassembler ensemble, tous autour des plus pauvres, d'aller jusqu'aux plus pauvres, pour ensemble créer un monde sans misère, de justice et de paix.
Alors, voilà. Je répète la phrase, là où des hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les droits de l'homme sont violés, s'unir pour les faire respecter est un devoir sacré. Et voilà. Puis, il y a, en tout cas sur la dalle à Rome, je me rends compte que j'ai fait une erreur, on a ajouté des paroles de Jean-Paul II, « Jamais plus d'exclusion, la discrimination, le mépris des pauvres et des petits
voilà. ».
Alors, cette dalle a été inaugurée, sauf erreur de ma part, Joseph Wresinski était présent, non, 1987?
Oui, bien sûr.
Alors,
oui.
Pour tous ceux qui ne connaissent pas encore Joseph Wresinski, même si on en parle régulièrement à cette antenne. Au début de cette émission, il est bon de rappeler qui est cet homme. Dites-nous en quelques mots ou quelques phrases.
Alors, c'est un homme... il était prêtre. Voilà. Il est né lui-même dans la très grande précarité, dans la misère de parents émigrés. Et il s'est retrouvé... Voilà, les parents se sont retrouvés parce que le père avait un passeport allemand au moment de la guerre... de la Première Guerre mondiale, donc dans une situation très, très difficile. Et suite à ça, la famille s'est vraiment retrouvée dans la grande misère. Et le père Joseph Wresinski a désiré être prêtre. Il a été ordonné en 1946. Et une fois ordonné, il n'a eu de cesse de rechercher les plus pauvres.
En s'installant entre autres à Noisy-le-Grand, vous pouvez en dire quelques mots.
Voilà, il a finalement été envoyé par son évêque dans un camp de l'abbé Pierre. Et là, il a eu un choc. Il a retrouvé un peu les familles, la famille qui vivait quand il était enfant. Et il a vite compris qu'il ne pouvait pas aider simplement individuellement les familles et les personnes, mais qu'il fallait ensemble se rassembler, ensemble les écouter, et ensemble porter leurs paroles au monde pour que sortir de cette exclusion, de cette misère, de cette injustice. Il a tout de suite vu que les familles n'étaient pas coupables de leur situation, mais que c'est le système, la société qui permettait que ces familles vivent dans cet état-là.
Alors, est né donc dans son sillage ATD Carmonde, qui pour le coup est beaucoup plus connu des auditeurs. Vous, Marie-Yvonne Cailloux, vous avez écrit un livre, donc « Contre vents et marées, réflexions sur la famille », paru aux éditions justement ATD Carmonde. La famille, c'est le thème donc de cette prochaine assemblée diocésaine de la diaconie, en tout cas pour le diocèse de Haute-Garonne, qui a lieu samedi prochain. On rappellera tous les détails pratiques à la fin de l'émission. Est-ce que vous pouvez commencer, Marie-Yvonne Cailloux, par nous dire quelle situation vivent les familles qui vivent la grande précarité? C'est ce par quoi vous commencez dans votre livre, en leur donnant la parole. À quoi ça ressemble? Est-ce que vous pouvez prendre des exemples pour ceux qui ne connaissent pas ça?
Oui, c'est difficile de dire parce que les situations sont multiples. Mais on voit que quand on vit dans la très très grande précarité, dans les difficultés multiples, il y a des choses qu'on retrouve chez les familles, et entre autres, au bout d'un moment, les personnes se trouvent stigmatisées, humiliées par leur situation et surtout le regard que les autres portent sur elles. Et petit à petit, cette humiliation, conduit les personnes dans la honte et surtout à couper les relations avec les autres. Et on voit que les personnes, les familles qui vivent dans la grande pauvreté, dans la misère, se retrouvent souvent très isolées, seules, enfermées.
Alors, est-ce que vous pouvez prendre un exemple? Par exemple, dans votre livre, vous citez l'exemple des familles qui vivent à l'hôtel. Quand on vit à l'hôtel, parfois on n'a pas la place pour dormir, certains dorment par terre, on ne sait pas toujours ce qu'on va manger, les enfants ne disent pas à l'école où ils habitent, on ne peut pas inviter les copains. Est-ce que vous avez d'autres exemples comme ça, bien concrets?
Par rapport au travail aussi, des gens qui ont un travail très très haché, quand on demande aux enfants ce que font leurs parents, les enfants n'osent pas dire, savent pas dire, on n'ose pas inviter ses copains pour les anniversaires, les familles se trouvent toujours dans des situations un peu extrêmes, être obligées d'aller demander de l'aide, donc sans cesse être obligé d'aller frapper à la porte de l'assistante sociale pour les aider.
Sébastien Combre, est-ce que vous avez d'autres exemples qui vous viennent en tête? Entendues.
Alors, moi, j'ai en tête là le témoignage d'un jeune homme qui, pour lui, c'était très important de témoigner de ce qu'il vivait. Et puis, comme un expert de lutte contre la galère, auprès d'un parterre de professionnels du logement, il venait témoigner de son logement et du travail qu'il n'arrivait pas à trouver, etc. Et puis alors, il témoigne, et donc il a beaucoup travaillé pour ce témoignage.
Et, qu'est-ce qu'il raconte? Puisque c'est ma question. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce que vivent les familles en situation de grande précarité?
Alors justement, c'est pas tellement ce qu'il raconte qui est important, c'est la réaction des gens et comment lui, il l'a ressenti. Les gens lui disent... au lieu de dire oh, c'est bien, j'ai appris grâce à toi, ils lui disent ah, mais est-ce que tu es allé à tel endroit? Est-ce que tu as fait telle démarche? Est-ce que tu as fait telle chose? Et en fait, lui, ce qu'il prend en pleine figure, c'est finalement, je suis coupable. Je suis coupable de ce qui m'arrive. Les gens, ce qu'ils sont en train de me dire, c'est que je suis coupable de ce qui m'arrive. Lui, il vient témoigner. Il vient apporter sa pierre à l'édifice pour essayer de faire évoluer les choses, parce qu'il voit bien que le système dans lequel on est ne fonctionne pas. Et en face, on lui renvoie la honte et on lui dit, ben voilà, si ce qui t'arrive, t'en es victime.
Alors Marie-Yvonne Caillou, vous expliquez dans votre ouvrage, donc après avoir décrit ces situations, on a quand même entrevu ce que pouvaient être ces situations, l'état aussi, enfin ce que peuvent vivre les enfants, l'angoisse et l'insécurité dans laquelle ça peut mettre les enfants. Malgré tout, le cœur de votre ouvrage, c'est de dire que quand les personnes qui sont extérieures justement à la grande précarité ont tendance à vouloir retirer les enfants, retirer la responsabilité parentale à toutes ces familles, le cœur du combat de ces familles, c'est de réussir leur vie de famille. Alors expliquez-nous l'importance que revêt ce combat dans toutes ces familles qui vivent la grande précarité.
Oui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la grande pauvreté, la grande précarité met à mal toutes les relations. Parce que la vie est un combat permanent et, comme on disait, très mêlé à la honte et à la culpabilité. Et alors du coup, ça met à mal les relations intrafamiliales et les relations avec l'extérieur. Et donc, les enfants ont souvent, subissent un peu cette réalité familiale difficile. Du coup, ont du mal à bien se développer, à apprendre à l'école, à s'ouvrir sur le monde. Et la société, face à ça, a la responsabilité, se sent la responsabilité de l'avenir de ses enfants. Et souvent, propose comme solution, finalement, de séparer les enfants des familles ou d'intervenir fortement dans leur éducation. Et ce qui se passe, c'est que ça met tout le monde dans une très, très grande souffrance parce qu'on touche à ces liens qui sont fondamentaux pour chacun de nous, les liens des parents et des enfants et des parents.
Alors, étant posé, Marie-Yvonne Caillou, quand toutes ces familles disent que pour eux, l'essentiel, c'est de réussir leur vie de famille, qu'est-ce que ça veut dire ?
C'est donner un bon... Les familles disent presque toutes, nous, ce qu'on veut, c'est donner un bon avenir à nos enfants. Que nos enfants ne vivent pas ce que nous, on vit. Qu'ils aient une vie libre et heureuse. Ça, voilà. C'est le grand désir des parents. Je ne connais pas de parents qui n'aient pas ce désir profond au fond d'eux-mêmes.
Alors, réussir sa vie familiale, préserver les liens, sortir de la peur et de la culpabilité, de la honte, dites-vous dans votre ouvrage.
Oui.
Vous esquissez donc un certain nombre de pistes qui sont avancées justement par les familles elles-mêmes, à vous entendre. Comment créer la confiance, comment rejoindre, la société et recréer des liens familiaux et collectifs.
Oui.
Qu'est-ce que vous pourriez nous citer comme initiative, comme réalité que vous avez identifiée au sein d'ATD Quart-Monde au long de vos années d'engagement dans ce mouvement qui aide ces familles? Vous citez entre autres, par exemple, la Maison des Parents.
Oui, c'est ça. Toutes les initiatives qui permettent aux personnes de sortir de leur enfermement et de retrouver des lieux où les relations sont apaisées, sont joyeuses, sont heureuses, des lieux de liberté de parole, des lieux où on peut essayer de vivre. Alors c'est un long travail, c'est un long travail parce qu'il s'agit de recréer la confiance, il s'agit de recréer le désir dans le cœur des gens, et il s'agit de sortir aussi de la peur parce que...
Mais est-ce que vous pouvez prendre des exemples, Marie-Yvonne Caillou? Citais la Maison des Parents, les universités populaires parentales, les universités populaires du Quart-Monde. Prenez des exemples, s'il vous plaît.
Nous, par exemple, maintenant, je suis très engagée dans un réseau qui s'appelle le réseau de la Pierre d'Angle, qui sont des groupes de prière, de partage de la parole de Dieu, de foi, où, ensemble, les personnes très pauvres, et puis quelques autres qui les rejoignent, on lit l'Évangile ensemble. Et à travers ça, eh bien, des personnes se rendent compte qu'elles ont des choses importantes à dire, que leur parole est entendue, reçue, qu'elle fait réfléchir les autres. Et petit à petit, eh ben voilà, on se remet debout, on se fait des amis, les personnes parlent de ce qu'elles vivent, elles s'entraident entre elles.
Expliquez dans votre livre combien il est important aussi de partager ces expériences, d'avoir des lieux où on peut partager son vécu avec des choses avec des pères quelque part, des gens qui vivent la même chose.
Des lieux de bienveillance et d'accueil de la parole où on peut parler librement sans tout de suite être jugé ou qu'on nous donne des conseils. T'as pas fait ça, faudrait faire ça, etc.
Il faut leur retrouver du pouvoir d'agir et de penser. On va faire une première pause, Marie-Yvonne Caillot. Je rappelle le titre de votre livre, Contre vents et marées, réflexions sur la famille, paru aux éditions ATD Carmonde.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Diaconie, la puissance de la parole des pauvres, c'est donc pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Autour du plateau, Marie-Yvonne Caillot, qui est ancienne déléguée aux questions familiales pour ATD Quart-Monde, auteur d'un ouvrage donc on a parcouru à grands traits au début d'émission, Contre vents et marées, réflexions sur la famille, paru aux éditions ATD Quart-Monde justement. Sébastien Combre, qui est volontaire permanent Bonne Nouvelle Quart-Monde, alors c'est peut-être du jargon pour certains, mais on verra ce que c'est, responsable de la diaconie pour le diocèse de Toulouse, et Gali, qui est membre du groupe Place et Parole des Pauvres. Sébastien, on est remonté au père fondateur, Joseph Wrzesinski, et donc on a parlé très rapidement donc, d'ATD Quart-Monde. Le symbole, on va dire, de cette fécondité, c'est donc cette dalle à l'honneur des victimes de la misère qui est place du Trocadéro à Paris, et je disais qu'il y a donc une réplique, entre autres, à Rome. Il y a une autre réalité qui existe maintenant au cœur de l'Église qui s'appelle la diaconie. Vous venez de temps en temps en parler à cette antenne. Le sous-titre pour la diaconie pour la Haute-Garonne, c'est « Ensemble, vivons une Église pour tous ». Redites-nous ce qu'est la diaconie.
Voilà. Alors la diaconie, déjà, c'est pas nouveau. Hein. C'est depuis que le Christ est arrivé sur Terre, c'est déjà la diaconie. Alors la diaconie, c'est permettre à moi, il me semble, il y a plusieurs portes d'accès, mais aujourd'hui, dans le diocèse de Toulouse, ce qui est important, c'est la parole et la place des personnes les plus vulnérables. Et finalement, c'est arriver à vivre une dynamique d'évangélisation de tous par les plus pauvres. On a tendance à penser que l'Église, elle est ouverte à tous et même aux pauvres. Eh bien, la dynamique de la diaconie dans le diocèse de Toulouse, c'est que l'Église est ouverte à tous, même aux riches. C'est-à-dire que c'est en commençant par les plus pauvres qu'on sera sûr d'être ouvert à tous. C'est finalement, les plus pauvres sont le signe de l'universalité de notre Église.
D'accord. Est-ce que vous pouviez nous redire ça en d'autres mots, parce que monde à l'envers, c'est parfois difficile à comprendre.
Eh bien, par exemple, si on a une pile d'assiettes et qu'on veut prendre toute la pile d'assiettes, il vaut mieux commencer par prendre celle du dessous et on soulèvera toutes les assiettes. Ce que je veux dire, c'est que si on a des stratégies d'évangélisation, de transformation de la société, de l'Église, tout ce que l'on veut, qui met de côté les pauvres en disant « on verra après, on fait entre nous et les pauvres nous rejoindront », ça ne marche pas. Si on commence dès le départ en disant mais comment on va faire pour être inclusif, c'est à la mode ce mot, inclusif auprès de tous et surtout des plus pauvres pour être sûr de n'oublier personne, eh bien ça marche. Je vous donne un exemple par exemple. Pour l'année de la miséricorde, on s'était dit...
Donc l'année de la miséricorde, pour rappel, c'est cette année qui avait été déclarée par le pape François dans toute l'Église universelle. C'était, je crois, il y a 3 ans maintenant.
Oui, à peu près, voilà. Et le pape François avait demandé à ce qu'on ouvre des portes jubilaires. Donc nous, on a ouvert une porte jubilaire à la cathédrale. Mais alors, je sais pas, à la cathédrale de Toulouse, il y a des marches. Et puis alors, on s'est dit, on va ouvrir la porte et puis tout le monde va passer. Et il y avait des fauteuils roulants. Alors, dans un premier temps, y a des voix qui se sont dit, c'est pas très grave, il y a une porte derrière l'église, ils vont passer derrière. Alors là, il y a des voix qui se sont levées, c'est pas possible. Et il faut que les personnes handicapées, qui sont en fauteuil roulant, passent cette porte jubilaire en même temps que les autres. Alors, on a mis en place une rampe, qui a coûté relativement cher. Hein. Mais n'empêche que cette rampe a permis aux fauteuils de passer. Mais pas que, parce qu'on était tellement nombreux qu'à la fin de la célébration, Nodevrek, il a dit heureusement qu'il y avait cette rampe, parce que toutes les mamies avec les béquilles, tous les enfants, les poussettes, etc. Au lieu d'avoir mis 1h15, on avait prévu 1/4 d'heure, 20 minutes pour passer la porte. Il y avait tellement de monde qu'on a mis 1h15. Mais on aurait mis 2 heures sans la rampe. Donc ce que je veux dire, c'est que quand on a en tête l'intérêt des plus pauvres, finalement ça profite à tous.
Voilà. Sébastien, ces services de la diaconie, il y en a donc dans différents diocèses maintenant en France. Alors à vous entendre, c'est plus qu'un service. Expliquez-nous un peu le développement au-delà du diocèse de Toulouse de ces réalités.
Alors oui, alors on est en construction là, Diaconia 2013. Donc en 2013, il y a quelques années maintenant.
Mais grand rassemblement à Lourdes, donc.
Oui, un grand rassemblement à Lourdes qui a rassemblé 17 000 personnes.
À l'invitation des évêques de France.
Oui, voilà, c'est la conférence des évêques de France qui avait organisé ça. Mais aujourd'hui, pour le coup, les diocèses sont en train de chercher. Dans l'Église, c'est comme ça qu'on fonctionne finalement. Quand il y a quelque chose de nouveau, on cherche, et puis après, on donne une norme. Mais aujourd'hui, il y a différentes réalités, il y a des services diocésains, mais il y a aussi des délégations diocésaines. Dans certains diocèses, c'est le Secours catholique qui est en charge cette dimension-là. Il y a différentes organisations. En tout cas, on voit bien que dans l'Église universelle, et particulièrement dans l'Église de France, la parole des pauvres a de plus en plus d'influence et que ça a des répercussions positives sur notre pastorale et sur notre théologie.
Alors, vous organisez donc samedi prochain une assemblée de la diaconie sur le thème donc Contre vents et marées, la famille une chance. Vous reprenez donc un petit peu le titre du livre de Marie-Yvonne Caillot, qui est toujours avec nous. C'est une journée donc que vous avez préparée avec différentes personnes en situation de grande précarité. Vous avez identifié différents thèmes qui disent l'importance de la famille ou de ce qu'il faut vivre à l'intérieur de la famille et ce qu'en disent donc ces personnes-là. Alors, Galie, on va commencer avec vous. Il y a plusieurs chapitres, mais il y a un chapitre, semble-t-il, important, ou plusieurs points. Il y en a un premier, c'est sur la confiance. Alors, il y a là-dedans des témoignages. Vous vouliez faire écho à un témoignage autour de la confiance. Racontez-nous. Allez-y, Galie.
La confiance, c'est important, je pense que...
Alors, racontez l'histoire, surtout. Mes parents m'ont toujours dit et redit que j'étais un raté, que je n'arrivais à rien, raconte un témoignage. Un copain m'a dit ce qui te manque à toi, c'est ce que ne t'ont pas transmis tes parents, c'est la confiance. Cette histoire, éventuellement, est-ce que vous pouvez nous la raconter rapidement?
Oui, mais en fait, si vos parents vous transmettent la confiance, c'est ils vous mettent dans la bonne voie. En fait, si vous la transmettez pas, c'est peut-être pas, c'est anodin peut-être, mais c'est quand même très important. En fait, on peut pas, bon, peut-être que des fois ils réalisent pas que la confiance qu'on peut transmettre à un enfant, que dès le plus jeune âge, et ça monte en crescendo.
Mais vous, par exemple, est-ce que vous pouvez parler à la première personne, nous dire ce que vous avez vécu? Vous avez des parents qui vous ont pas transmis la confiance. Qu'est-ce que vous avez vécu exactement?
Ben, c'est-à-dire que oui, c'est vrai qu'ils m'ont pas beaucoup transmis la confiance. C'est-à-dire qu'ils ont été, ils m'ont fait un petit peu. Je suis resté beaucoup en moi-même dans le doute. Est-ce que j'arriverai un jour à quelque chose? Mais non, ils me l'ont pas transmis.
À l'école, par exemple, comment ça se passait? Racontez-nous.
Bon, à l'école, moi, quand je suis arrivé en France, déjà. Ça s'est passé très mal.
Voilà, donc quant à l'école, c'est quand je faisais des fautes d'orthographe, en gros, on vous reprenait, on vous moquait. Mm-hmm. Sébastien Combre, il y a différents thèmes donc, qui ont été choisis, fruit de cette réflexion ensemble. La famille comme lieu de transmission, lieu d'apprentissage. Racontez-nous un peu ces différentes thématiques, différentes mm-hmm. valeurs fortes qui sont ressorties de cette préparation et en vue de cette journée.
Un petit point méthodo, 30 secondes, de comment ce texte a été écrit. Donc c'est autour de partages qui sont enregistrés. Il y a trois partages d'une heure et demie. Et après, nous, on réécrit mot pour mot ce qui a été dit et on fait des copier-coller pour écrire ce texte. Et alors, effectivement, quand on revoit toutes les expressions, on se rend compte que la confiance et le pardon sont en fait les focus sur lesquels ce groupe s'est attardé. Ils ont un peu évoqué l'histoire de la transmission en disant que de toute manière, on a un peu l'impression, parfois, que quand dans notre vie tout va bien, qu'il y a des choses qui sont innées, finalement. Comme serrer quelqu'un dans ses bras, comme dire je t'aime. Mais en fait, quand ça ne nous a pas été transmis, on ne peut pas le transmettre. Il y a une maman qui dit « Comment voulez-vous que je prenne mon enfant dans mes bras et que je le berce ? Moi-même, je n'ai pas été bercé. » J'ai envie de dire, si eux ne nous le disent pas, ce genre de choses, on ne peut pas le deviner presque. Voilà, il y a des choses qui sont tellement innées, qui nous semblent innées, mais qu'on se rend compte quand on ne les a pas acquis, quand elles ne nous ont pas été transmises, que ça manque. Après,
est-ce que vous pouvez prendre un exemple pour la famille, lieu d'apprentissage du pardon ou alors de la confiance, voilà. Si vous voulez prolonger l'un ou l'autre.
Le pardon, par exemple, je pense à cet homme-là qui nous parle de son enfance, comment sa mère, de sa naissance finalement, et comment son oncle lui a rappelé sa naissance, sa maman qui était enceinte, qui part en forêt, et son oncle la suit, et elle accouche, et l'oncle récupère l'enfant, et la maman qui dit « Heureusement que tu as récupéré l'enfant, sinon moi je l'aurais jeté dans le fossé ». Et cet homme qui dit « Moi je peux pas pardonner, je peux pas pardonner », et il rajoute, là je lis, hein, « Je ne peux pas pardonner, ou alors peut-être un jour, quand il faut que Dieu me donne la force de pardonner ». il n'y a que lui qui peut m'aider. Il n'y a que Dieu qui peut donner la force. Ben, je crois que cette parole, elle est vraiment forte et elle nous rappelle ce que les théologiens disent sur le pardon qui vient pas seulement de Dieu, qui vient pas seulement de nous, mais qui passe par Dieu. Quand on n'a rien à pardonner finalement ou des petites broutilles parce qu'on nous a bousculé dans la rue ou parce que on a prêté 10 euros et qu'on a tardé à nous les rendre, on ne se rend pas compte de la force du pardon. Mais une expression comme ça nous rappelle la force du pardon et la nécessité de Dieu dans cette démarche-là.
Alors si je reviens au début de l'émission, là, quand on a rapidement parlé donc, de l'ouvrage de Marie-Yvonne Caillot, Contre vents et marées, réflexion sur la famille, le cœur de cet ouvrage c'était de dire que c'est des familles dont les réalités familiales justement sont souvent malmenées, mais dont l'objectif, probablement comme chacun de nous, hein, mais on finit peut-être par le perdre de vue, c'est de réussir sa vie de famille, mais réussir, on entend en fait être les premiers acteurs. Qu'est-ce que vous diriez sur ce sujet, Sébastien, quand vous avez pris du temps pour discuter, ou avec Gali, entre autres, hein, et puis ça n'empêche pas Gali d'intervenir, quid de l'importance de la famille? Est-ce qu'il y a cette tension, c'est-à-dire eux, la famille, c'est leur combat, et dans le fond, c'est ce dont on veut les priver?
Oui, alors il y a un gros paradoxe, et c'est souvent dans les paradoxes qu'il y a de la vérité, parce qu'il y a à la fois l'enfant qui va arriver, c'est l'enfant qui va tout changer dans la famille. Quand une femme est enceinte, à chaque fois c'est vraiment, il y a une espérance dans cette famille. Enfin, cet enfant sera celui qui ne va pas vivre ce que moi j'ai vécu, même si parfois c'est le sixième et que les cinq prennent la direction de ce, enfin finalement semble avoir la même vie qu'auront eu les parents. Et à la fois, il y a ce désir profond, et à la fois, il y a quand même cette incapacité à pouvoir transmettre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que quand on nous a pas transmis, c'est difficile de transmettre. Il y en a un qui dit, on peut donner que ce qu'on nous a donné.
Mais alors, qu'est-ce qu'ils demandent d'une certaine manière aux autres? C'est-à-dire de les laisser faire, de les accompagner, de pas les priver en fait de ce rôle, c'est ça?
C'est-à-dire qu'il y a un rêve d'être des bons parents, et il y a dans le cœur un élan de bonne volonté, et pour le coup, mais une difficulté. Donc en fait, il faut arriver et je crois que c'est ce qu'il demande en profondeur, arriver à cet équilibre entre une présence qui est agissante et qui leur permet d'être des bons parents et finalement leur une certaine liberté. Je crois que de toute manière la société, par rapport aux parents, la société elle a toujours pensé, enfin elle pense encore que il y a des dans le texte là, il y a quelqu'un qui témoigne qui dit que c'est famille pathogène. Donc en fait si vous voulez on pense encore, la société pense que certaines familles sont néfastes pour les enfants et que le meilleur moyen d'élever les enfants, c'est de sortir les enfants de la famille, alors que c'est une catastrophe, quoi.
Gali, vous vouliez prendre la parole.
Oui, c'est vrai, c'est qu'il a, je rebondis ce qu'il disait, mais certaines familles où qui sont, pour eux, les enfants sont néfastes. Mais moi, j'avais l'impression que j'étais néfaste pour ma famille. La preuve, parce que quand même, quand je suis arrivé, ce que j'avais dit une fois hier soir à un copain, c'est un gamin qui s'appelle les Cadères, c'est très gentil. Lui le disait, il me disait, mais c'est pas normal qu'un gars comme toi qui a jamais fait de prison, qui a jamais été condamné, qui a jamais fait de braquage, rien du tout. Oh, j'ai dit, j'étais clean, mais au contraire, j'avais peur. Ton père n'a jamais eu dans sa vie à aller dans la police. Jamais. Il aurait dû dire, Dieu merci, j'ai un fils qui m'a jamais amené le moindre emmerdement. Et c'est vrai. Je devrais être fier de moi. Mais je peux remercier ce copain. Grâce à lui, avant moi, j'étais vraiment, je me disais, mais j'étais nul, rien du tout, c'est une catastrophe. Mais oui, ils ont raison. Mais je ne sais pas lire, j'ai pas de travail, je n'ai pas une copine, rien du tout. Et c'est ce qui me faisait savoir. Mais c'est vrai. Je crois que quand on donne. C'est un copain, moi, qui s'appelle Jean-Marc,
Alors juste, on a compris votre témoignage. Merci beaucoup. Je vous coupe la parole parce que je voudrais faire circuler la parole. Marie-Yvonne Caillot, dans ce que vient de dire Gali, j'aimerais que vous nous aidiez à comprendre en fait le chemin qu'il y a à faire. Ce que vous dites dans votre ouvrage, c'est qu'en fait, la première chose qui est importante, c'est de trouver en fait des lieux, des espaces de parole où justement, on prenne le temps peut-être d'écouter plus longuement Gali qu'on le fait là, et qu'il y ait des personnes qui écoutent avec, vous lire hein, avec bienveillance, pour valider quelque part la souffrance qui a été vécue et en même temps aider à poser un autre regard sur soi. Bref, que en fait la société, plutôt que de priver toutes ces familles de leurs responsabilités, devrait prendre le temps de faire ce qu'on fait ici trop rapidement, de l'écoute et de la validation, comme on dit. Expliquez-nous ça, Marie-Yvonne Caillot.
Mais je pense que les pauvres, ils sont faits de la même pâte humaine que les autres. On est tous des humains avec des profonds désirs au fond de notre cœur, de réussite, de joie, de rencontre, etc. Et quand on est pauvre, la pauvreté, elle pousse les personnes et les familles vraiment dans des situations très, très difficiles et très douloureuses. Et je pense que la première chose à faire, c'est d'avoir des relations qui font que on retrouve de la fierté. Voilà. Simplement la fierté d'être qui je suis. Et de la reconnaissance que je suis une personne digne. Voilà. Et ben, ça se fait dans des relations toutes simples, dans des relations de reconnaissance, d'écoute, qui redonnent aux personnes la certitude qu'elles ont de la valeur.
Voilà. Sébastien Combre, à l'occasion de la journée de cette assemblée diocésaine de la diaconie, sont invités tous les chrétiens, enfin tous les fidèles en tout cas du diocèse de Toulouse. Expliquez-nous l'importance de cette présence variée. Les pauvres ont quelque chose à dire, il faut prendre le temps de les écouter sans condescendance. Pourquoi est-ce aussi important de se mélanger comme ça?
Je crois que c'est important parce que c'est le fondement de l'Église, l'unité. Donc on doit être... L'idée, c'est une assemblée diocésaine de la diaconie, certes, mais une assemblée diocésaine. Donc c'est une assemblée pour tout le diocèse. Et notre évêque est présent, ça lui donne un peu la température de ce qui se passe dans le diocèse concernant la solidarité et la famille, puisque là c'est le thème. Et je crois que ce qui est bon, c'est dans le croisement. C'est-à-dire qu'à la fois, comme disait Marie-Yvonne, les plus pauvres sont faits de pâte humaine. Il n'y a rien d'extraordinaire. Seulement, ce qu'ils vivent, ils le vivent un peu puissance 10, moi j'aime dire. Et finalement, en ayant une assemblée de la diaconie qui commence par donner la parole aux plus pauvres et qui ensuite, petit à petit, donne la parole à toute l'assemblée, parce que c'est pas parce qu'on est... qu'on ne vit pas la pauvreté, que dans ces assemblées, on n'a pas le droit de s'exprimer, bien au contraire, eh bien, on arrive à une expression qui permet d'être juste, quoi, d'être le plus proche du terrain, sans oublier personne, parce qu'on a commencé par l'expression des plus pauvres. Si on ne commençait pas par l'expression des plus pauvres, si les experts de la famille parlaient, ensuite les plus pauvres ils disent oui, on est d'accord, oui, on est d'accord, parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'avoir une expression qui soit... Qui puisse passer au-dessus, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ?
On va y revenir sur cette parole des plus pauvres, parce que dans tous vos mouvements, que ce soit la diaconie ou dans la famille élargie du Père Joseph Wrzesinski, vous incitez souvent sur cette parole. Vous dites qu'elle a un vrai pouvoir de transformation de l'Église et du monde, qu'elle est prophétique. Mmh. On va y revenir dans la dernière partie de l'émission. Pour ceux qui nous quitteraient maintenant, l'Assemblée diocésaine de la diaconie pour la Haute-Garonne, donc sur le thème « Contre vents et marées, la famille, une chance ». Point d'interrogation, c'est donc samedi prochain à 10h, salle Nougaro à Revel, et puis on donnera toutes les informations pratiques à la fin de l'émission, puisqu'il y a même un bus pour vous y conduire.
Thank you.
Radio Présence à Millau 106.5. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Diaconie, la puissance de la parole des pauvres, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin autour du plateau. Marie-Yvonne Caillot, ancienne déléguée aux questions familiales pour ATD Quart-Monde, Sébastien Combre, responsable de la diaconie pour le diocèse de Toulouse, et Gali, qui est membre d'un groupe qui s'appelle Place et Parole des Pauvres. Dans cette dernière partie, donc, j'aimerais qu'on s'arrête sur ce qui est un leitmotiv dans tous vos mouvements, ou toute réalité d'église ou pas, ou profane, c'est donc l'importance de la parole des plus pauvres. Je commencerai avec vous, Marie-Yvonne Caillot. Je me suis plongé dans une interview de Bruno Tardieu, qui est l'ancien délégué national donc d'ATD Quart-Monde de 2006 à 2014. C'est une interview dans laquelle la journaliste le taquinait en lui disant: est-ce que vous avez l'impression que dans le fond les choses ont vraiment avancé sur le sujet du combat à mener contre la misère? Alors il rappelait déjà qu'à ATD Quart-Monde aujourd'hui, il est bon de le dire, c'est plus de 100 000 personnes qui sont engagées dans ce mouvement. Il y a 350 volontaires permanents, comme vous en êtes, peut-être qu'on aura le temps d'expliquer ce que c'est. Mais surtout, il y avait l'intitulé de l'article, c'était « La parole des plus pauvres s'est libérée ». Alors, est-ce que vous pouvez nous, vous qui avez un peu de recul, qui avez longtemps accompagné ce mouvement, qu'est-ce que ça veut dire quand Bruno Tardieu, l'ancien délégué national, dit « La parole des pauvres s'est libérée »
Eh bien, c'est sûr que petit à petit, dans la société et dans l'Église, on prend compte, on a compris qu'il y avait quelque chose à entendre et à écouter si on voulait construire une société démocratique et fraternelle, juste et fraternelle. Et que cela ne pouvait pas se faire sans entendre et écouter la voix de tout le monde. Et surtout la voix de ceux qu'on n'entend jamais.
Alors pourquoi est-ce aussi important? Est-ce que vous pouvez nous le redire? Pourquoi est-ce qu'au cœur de tous vos engagements,
oui,
ou l'impression...
Je pense que les très pauvres vivent des expériences extrêmes que nous ne connaissons pas, que nous ne voyons pas, que nous ne comprenons pas, ou qu'on comprend à travers nos propres filtres, à travers nos propres expériences. Et ils vivent, eux, une expérience singulière, extrême. Et donc, pour pouvoir avancer tous ensemble et construire une société unie et juste, il est nécessaire d'entendre la voix de tout le monde. Et donc, la voix de ceux qu'on n'entend pas. Et la voix de ceux qu'on n'entend pas, ben, c'est les plus pauvres, ceux qu'on juge incapables, ceux qu'on juge... voilà, ne sachant pas et à qui il faut apprendre. Eh bien, nous, on pense qu'il faut renverser les choses et commencer par les écouter.
Par les écouter
sans nos filtres à nous.
Est-ce que vous pouvez prendre un exemple, Marie-Yvonne Caillot, si possible concret? Je sais qu'on me... Souvent, je taquine beaucoup mes invités avec ça.
Oui.
Quand on prend le temps d'écouter justement la parole des plus pauvres, qu'est-ce que ça change, on va dire, à l'arrivée? Est-ce que vous pouvez prendre un exemple, par exemple, sociétal? Je sais pas, j'avais entendu dire que le RSA, était le fruit d'une réflexion avec les plus pauvres.
Oui, non, j'en sais rien, mais moi, je peux vous donner un exemple personnel, comment j'ai changé. Voilà, je suis arrivée dans le mouvement ATD Quart-Monde avec des bons sentiments, de générosité, d'aider les pauvres, etc., comme de rencontres, et voilà. Et il y avait eu une maman, précisément dans la cité où on habitait une petite cité pauvre, une maman qui avait un grand désir que son fils réussisse à l'école. Elle avait été placée très jeune et elle avait qu'une hantise, c'est que voilà, son fils soit placé à son tour, etc. Et en même temps, elle n'envoyait pas son enfant à l'école. Donc pour moi, il y avait je ne comprenais pas. Et petit à petit, tous les discours qu'elle me faisait sur l'école, j'avais en moi des jugements énormes en disant, elle raconte des choses et elle fait le contraire, donc elle est complètement incohérente, etc. Et un jour, elle me dit, tu sais, Marie-Vonne, je ne peux pas l'envoyer à l'école le corps vide. Alors, je ne sais pas si cette expression qui m'a touché le cœur, mais elle m'a dit, je ne peux pas l'envoyer à l'école le corps vide, ils vont me le prendre. Et alors là, j'ai compris. J'ai compris qu'elle était prise elle-même dans des contradictions qui la faisaient énormément souffrir. Et mon jugement, mon regard sur elle a complètement changé. J'ai plus vu une femme qui me racontait des histoires, mais j'ai vu une femme qui était dans une très très grande souffrance.
Voilà, et c'est d'ailleurs peut-être, voilà. C'est peut-être alors, elle qui a inspiré votre ouvrage, qui s'appelle Germaine, non ?
Non, c'est pas elle, mais voilà.
C'est pas ça qu'on voulait prendre un exemple sociétal. Peut-être le RSA.
Oui, bah, peut-être en amont, en 86, il me semble que Joseph Brzezinski a écrit un rapport sur la très grande pauvreté, qui a été repris, c'était un avis, un conseil environnemental. Et cet avis a été repris et a donné naissance à des lois comme la loi avec le RSA. À RMI à l'époque. Alors tout n'a pas été pris en compte, tout le versant insertion a été un peu mis de côté, et puis après un peu plus loin, porté par Geneviève Antonius de Gaulle, il y a eu en 98 toutes les lois contre les exclusions. C'est-à-dire, là, c'était en écoutant les personnes les plus pauvres qu'on s'est rendu compte qu'il fallait pas couper le courant ou ce genre de choses, que c'était pas forcément de la mauvaise volonté de pas payer. Mais je crois que Marie-Vonne, elle témoigne d'une conversion personnelle, parce que c'est très important. En fait, la parole des pauvres, elle permet une conversion personnelle. Et nous, on est persuadés que la société, elle sera transformée et par ceux qui ont le pouvoir. C'est l'idée, c'est pas de mettre au pouvoir des groupes de pauvres qui discutent les lois, etc. Il faut des gens qui ont des talents, qui ont des expériences, qui ont cette compétence. Soit scientifique, soit théologique pour nous, soit dans l'écriture de la loi. Et donc, ce qui compte, c'est de permettre à nos politiques, à tous ceux qui dirigent, d'être touchés par la parole des plus pauvres, pour ensuite avoir une action qui soit à destination des plus pauvres. Donc, cette conversion personnelle, elle n'est pas à négliger. Je crois qu'elle est fondamentale. C'est parce que par la parole des pauvres, certains sont touchés, qui ensuite, si un curé et par exemple à l'Assemblée de la Diaconie est touché par ce que l'on va vivre, eh bien, il va impulser dans sa paroisse des politiques pastorales un peu différentes. D'ailleurs, pour Diaconia 2013, beaucoup de prêtres ou d'évêques ont été touchés et ont complètement transformé leur diocèse.
Voilà, bah rendez-vous est donné si vous voulez en faire l'expérience. Donc c'est à l'Assemblée diocésaine de la Diaconie pour le diocèse de Haute-Garonne en tout cas. Peut-être y a-t-il d'autres rendez-vous équivalents à d'autres moments de l'année dans les autres diocèses de notre région. Pour ça, tournez-vous vers vos diocèses ou allez sur le site de Radio Présence dans la rubrique Vie d'église. En tout cas, cette Assemblée diocésaine, c'est sur le thème Contre vents et marées, la famille, une chance, point d'interrogation. Rendez-vous 10h, salle Nougaro à Revel. Sébastien, il y a aussi un détail pratique à mentionner.
Donc, des détails pratiques, il y a un bus à 8h30, place Saint-Cyprien, République. Voilà, vous parliez du diocèse, mais on est à Revel, on n'est pas loin de diocèse voisin. S'il y a d'autres. C'est pas ouvert qu'aux gens du diocèse, s'il y en a qui veulent venir du diocèse d'à côté. Et le repas est un repas partagé.
Bienvenue à l'Assemblée diocésaine de la Diaconie, c'est samedi prochain. Je rappelle le titre de votre livre, Marie-Vonne Caillot, Contre vents et marées, réflexions sur la famille, paru aux éditions ATD Carmonde. Un grand merci à vous. Cette émission était réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.